rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Il y a exactement 25 ans, l'Europe forte, alors de 12 pays, signait le traité de Maastricht. La communauté européenne devenait l'Union européenne et décidait de se lancer dans un grand projet, une monnaie unique. 10 ans plus tard, le 1er janvier 2002, nous avions tous des nouvelles pièces dans nos poches, en tout cas pour les citoyens des 12 pays qui ont été les premiers à adhérer à l'euro. Et pour la première fois, nous avons payé en euros. Un Européen qui a 30 ans ou plus aujourd'hui a forcément ce moment historique en mémoire. La monnaie européenne a permis une maîtrise de l'inflation, une baisse généralisée des taux d'intérêt, mais elle est aujourd'hui critiquée. Il ne se passe pas un jour sans qu'un débat naisse sur la monnaie européenne. L'euro est-il un facteur d'austérité? Avec la crise grecque et la superpuissance de l'Allemagne, les disparités nord-sud sont en tout cas devenues problématiques. Quel est l'avenir de cette zone euro à 19 qui constitue une Europe dans l'Europe? Nos invités vont nous le dire, je vous les présente. Bonjour Marie-Paul Virard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste économique et auteur de plusieurs ouvrages. Votre dernier livre, a écrit avec Patrick Artus, s'intitule « Euro, par ici, la sortie » et il est publié chez Fayard. Jérôme Kriel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département d'études de l'OFCE et l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes co-auteur, vous aussi, de l'économie européenne en 2007, l'Union européenne après le Brexit aux éditions de la Découverte. Maria-Joan Rodriguez, bonjour, Botard.
Bonjour et Botard.
Merci d'être en ligne du Parlement européen de Strasbourg où vous êtes députée européenne, vice-présidente du Parlement européen et vous êtes députée européenne portugaise, je l'ai dit, du groupe des socialistes et démocrates. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose une courte histoire de l'euro forcément partielle par ceux qui l'ont écrite avec l'aide de Maria Fonso.
En 1995, le nom de la monnaie unique européenne est fixé ce sera l'euro, mais il faudra attendre encore 4 ans pour qu'elle voie officiellement le jour. Le 31 décembre 1998, la veille de son lancement officiel, Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois, se réjouit de cette étape.
Nous franchissons une borne qu'il n'est pas exagéré de qualifier d'historique. Nous soudons maintenant les failles qui ont si souvent marqué nos divisions. L'union monétaire est d'une essence différente de la convergence, de la coordination de l'harmonisation qui caractérise la construction communautaire au quotidien par ailleurs. L'acte que nous posons est un acte irrévocable, un acte définitif.
L'euro est d'abord utilisé sur les marchés financiers, puis son usage est progressivement étendu aux particuliers. En février 2000, Jacques Chirac, alors président de la République française, prépare les Français au passage à l'euro.
L'euro, en s'imposant sur les marchés financiers, a remporté un premier succès, c'est maintenant à nos concitoyens de l'adopter pour leur vie de tous les jours. Nous devons nous y préparer activement et d'abord assumer pleinement notre responsabilité collective à l'égard de notre monnaie. L'euro doit être solide, à Europe forte, monnaie forte. L'euro doit inspirer confiance à l'extérieur comme à l'intérieur de nos pays.
Le 1er janvier 2002, les pièces et billets en euros arrivent dans les porte-monnaies des citoyens de 12 pays de l'Union européenne. Mais en 2008, avec la crise financière, la zone euro entre dans une période de turbulence. La crise grecque qui suit suscite de nombreux débats, aussi bien sur la pérennité de la zone euro que sur les politiques économiques à suivre. Mais pour Angela Merkel, en juillet 2011, l'Europe est impensable sans l'euro.
Je veux que l'Europe sorte renforcée de la crise. À ce titre, les résultats d'hier sont importants. Protéger l'euro constitue un défi historique. Ce que nous faisons aujourd'hui pour la monnaie commune et pour l'Europe, nous en tirerons des dividendes substantiels demain. L'euro est une bonne chose pour nous. L'euro fait partie intégrante de la réussite économique allemande. L'Europe n'est plus pensable sans l'euro. Et la crise actuelle pour le premier pays intéressé, la Grèce, va également de pair avec de nouvelles opportunités. Tout d'abord, en raison du volume important de privatisation possible. Ensuite, parce que beaucoup de réglementations qui brident aujourd'hui l'économie grecque peuvent disparaître et lui permettre de croître. Et ce, même si les mesures de libéralisation prises aujourd'hui provoquent des critiques véhémentes.
Alors, entre la déclaration solennelle de Jean-Claude Juncker, alors Premier ministre du Luxembourg, et celle plus récente de la chancelière Merkel, on comprend que l'histoire de la monnaie unique n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors Jérôme Krill, sans refaire la genèse, comment en est-on venu à Maastricht à imaginer la création d'une monnaie unique? C'était le 7 février 92. Alors il faut rappeler que l'Europe, à l'époque, c'est l'Europe des 12. Les pays nordiques et scandinaves, l'Autriche ne sont pas encore membres de l'Union européenne. Les pays de l'Europe centrale et orientale encore moins. Les 12, ce sont les pays de l'Europe occidentale, les fondateurs, plus les pays du Sud, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, hein, pour resituer un petit peu ce qu'était l'Europe en 1992.
Alors, l'idée qui va prévaloir à ce traité de Maastricht, c'est d'avoir une étape supplémentaire dans notre intégration économique et donc monétaire. Intégration économique, c'est quoi? C'est que le projet européen s'est réalisé de telle sorte à ce que nous commercions les uns avec les autres plutôt que de nous faire la guerre, en quelque sorte. C'est quand même un élément qu'il faut aussi rappeler. Et quand on est au milieu des années 80, on voit bien que le processus européen patine, que ce qu'on avait décidé de faire en 1957, ben on ne l'a pas encore réalisé. On n'a pas un marché unique des biens, des services, de la main-d'œuvre et du capital. Et l'idée qui va prévaloir à Maastricht, c'est de dire, voilà, ben, si on avait une monnaie unique, on aurait forcément plus facilement un marché unique. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire des transactions sur n'importe quel type de bien avec des Allemands quand on est français, quand on partage la même monnaie. C'est ça qui va prévaloir. Et ensuite, il va y avoir une accélération après Maastricht, parce que avant Maastricht, on avait chacun notre monnaie. Les Français avaient le franc, les Allemands le Deutsche Mark, et la lire italienne circulait en Italie. Mais on va avoir un problème de spéculation sur les marchés de change qui va tout à fait accélérer la volonté des États membres d'accéder à l'euro. Parce que si on a l'euro, on n'a plus de problème de spéculation les uns contre les autres, et on va certainement pouvoir créer de la valeur plutôt que de créer de la spéculation.
Marie-Paul Virard, c'était une très bonne idée, lancer l'euro.
Voilà, absolument, parce que effectivement, quand vous parlez d'intégration, eh bien, à l'époque des pères fondateurs, intégration, ça signifiait convergence. Et convergence, c'était une convergence par le haut. Tous allemands, on pensait que l'économie européenne, du coup, allait créer davantage de richesses, davantage d'emplois, et que chacun dans l'ensemble de l'Union européenne serait plus prospère et pourrait préparer un meilleur avenir à leurs enfants. Et je pense que c'est ça aussi aujourd'hui, enfin on y reviendra certainement dans l'émission,
bien évidemment.
C'est ça qui est remis en cause aujourd'hui.
Ça n'a pas marché comme on pensait que ça allait marcher.
Ça n'a pas marché tout à fait.
Marie-Jo Rodriguez, quand le Portugal rejoint l'euro, et le Portugal était un pays du premier cercle, un des 12 pays qui ont eu l'euro sous forme de pièces sonnantes et trébuchantes le 1er janvier 2002, qu'est-ce que ça représentait pour le Portugal à ce moment-là d'être dans la zone euro dès le départ?
Je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais ministre du gouvernement portugais qui a pris cela en charge. Et j'étais même la responsable de négocier avec les partenaires sociaux l'accord stratégique pour préparer l'intégration du Portugal à la zone euro. Alors ça a été tout à fait intéressant parce qu'on a vu que avec ce but ambitieux, très exigeant pour le Portugal à l'époque, on a pu enclencher un cercle vertueux au Portugal en disant, bon, il faut en même temps augmenter la productivité, l'investissement et avec ça soutenir en rattrapage des conditions sociales. Et l'accord stratégique portait sur cela. Et donc, ça a donné une impulsion plutôt positive au Portugal à l'époque.
Et ça a plutôt bien marché parce que le Portugal, dans les années 2000, connaît, et un petit peu avant d'ailleurs, connaît vraiment un boom économique formidable.
Oui, mais je dois mettre quelques réserves parce que c'est vrai qu'on a eu un processus de rattrapage quand même assez important, soutenu par le marché intérieur, la politique de convergence et aussi la monnaie unique à l'époque. Mais il faut aussi reconnaître que l'investissement parfois n'a pas porté sur les priorités qui seraient clés. Il avait tout un effort de rattrapage sur les infrastructures et on l'a fait, mais à partir d'un certain moment, la priorité devrait devenir l'innovation, l'éducation, et je pense qu'on a fait ce tournant un peu trop tard.
Et
cela n'est pas un cas unique, donc cela explique que dans la première étape de la zone euro, on a eu le rattrapage, mais on avait déjà des déséquilibres. Ça avant la crise. Et puis la crise a augmenté l'échelle de ces déséquilibres.
Est-ce que vous voulez dire que plutôt qu'investir, les Portugais, un peu comme les Grecs, ont consommé plutôt qu'investir ? C'est un peu ce que vous avez dit, si j'ai bien décodé ce que vous avez dit.
Pour être précis, on a investi énormément. Tout d'abord pour faire des choses qui devaient être faites, infrastructures, équipements sociaux. Mais à partir d'un certain moment, on devrait réorienter l'investissement sur l'immatériel, ça veut dire l'innovation, l'éducation et la formation. D'autant plus qu'au Portugal, on venait de consacrer à Lisbonne l'an 2000 avec nos partenaires européens ce qu'on appelait à l'époque la stratégie de Lisbonne, qui est une stratégie de croissance soutenu par exactement l'innovation et la connaissance. Donc, le Portugal aurait dû réorienter son investissement dans cette direction plutôt qu'il ne l'a fait après.
Alors, on peut quand même rappeler que l'euro est un des symboles forts de l'Union européenne pour les citoyens, avec bien sûr la libre circulation des personnes, c'est-à-dire l'espace Schengen, et peut-être un moindre degré Erasmus, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Bah, c'est l'euro, Erasmus, et puis la possibilité de voyager. Bien évidemment, on peut rappeler que l'euro facilite la vie des Européens, surtout lorsqu'ils voyagent à travers cette grande zone économique. Alors, Jérôme Krill, on parle souvent de la maladie infantile de Maastricht. C'est quoi cette maladie infantile, c'est-à-dire qu'on a créé un beau programme et ça n'a pas forcément marché comme on l'espérait, au niveau notamment de la convergence des économies nord et sud, comme l'a évoqué en vraiment quelques mots Marie-Paul Ferrard.
Oui, mais comme le disait Marie-Paul, on était pour partager la même monnaie, il faut qu'on soit des économies les plus proches possibles. Donc il faut qu'on ait convergé. Et l'erreur,
ça, sans ça doute, qu'il faut que les économies soient à peu près au même niveau quand vous
au
dites
au même niveau de développement. Et donc c'est-à-dire que on l'avait pas oublié à Maastricht. Il y a des critères dits de convergence qui devraient amener les pays qui vont partager la même monnaie à avoir convergé vers le même niveau d'inflation, vers le même niveau de taux d'intérêt, vers une stabilité de leur taux de change et vers des finances publiques à peu près disciplinées. Cependant, on a oublié que des pays allaient rentrer dans la zone euro avec des conditions sur leur marché du travail qui allaient être très différentes par rapport à leurs partenaires. C'est-à-dire qu'un pays comme la Grèce, qui est rentré dans la zone euro en 2002, avait certainement encore des marges pour améliorer son marché du travail. Et comme ils sont entrés dans la zone euro et qu'ils ont eu cette baisse importante des taux d'intérêt, eh bien, au lieu d'avoir un peu de croissance, ils ont eu trop de croissance. Comme ils ont eu trop de croissance, ils se sont mis à beaucoup investir. Ça, c'est la bonne chose qu'ils ont fait.
Et mais aussi plus, beaucoup consommer. Encore plus consommer.
Et beaucoup plus consommer. Et ils ont octroyé à leurs salariés des augmentations salariales qui étaient certainement au-delà de la productivité de ces salariés. Ils ont créé des déséquilibres, mais en ayant tout à fait respecté, jusqu'à un certain point pour ce qui concerne les Grecs, les critères qui leur avaient été préalablement proposés. L'erreur qu'on a commise, l'erreur infantile de l'euro, c'est de ne pas avoir imposé ce qu'on appelle des critères réels et par exemple avoir une convergence des taux de chômage entre les différents pays qui partageraient la même monnaie, de sorte à ce que l'euro ne soit pas un choc économique lorsqu'il interviendra dans l'économie.
Oui, parce que les contraintes de l'euro, c'était de dire qu'il fallait un contrôle de l'inflation. Dans la zone euro, l'inflation est très faible, elle a été depuis l'existence de l'euro. Et puis, la fameuse maîtrise des finances publiques. Ça a été les deux critères importants, deux contraintes de l'euro. Il pouvait y en avoir d'autres, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer.
Oui, il aurait pu y avoir aussi des critères sur les déséquilibres de balance des comptes courants, parce que la crise que connaissent les pays périphériques, comme on les appelle dans la zone euro, c'est une crise au cours de laquelle ces pays ont eu des déficits commerciaux, là où un pays comme l'Allemagne avait des excédents commerciaux. Ce qui fait que ces deux types de pays ont divergé alors qu'ils partageaient la même monnaie. À partir du moment où on a une petite crainte que la monnaie ne soit plus unique, eh bien on se retrouve avec la possibilité qu'il y ait des crises dites de balance des paiements. Si on n'avait jamais eu de crainte de la disparition de l'euro, que les Allemands aient des excédents et éventuellement les Grecs des déficits, c'est pas un problème parce que le Massachusetts a peut-être un excédent là où la Californie a un déficit. Et ça pose pas la question du dollar américain au sein des États-Unis d'Amérique. Problème, c'est qu'on n'est pas parvenu à rendre crédible la pérennité de l'euro. Et je crois, moi, que l'euro n'est pas en jeu. C'est juste les politiques économiques qu'on met derrière.
Le mode d'emploi.
Le mode d'emploi qui est
alors,
le plus important.
Marie-Joëlle, j'ai entendu au fond de mon casque que vous aviez envie de réagir à ce que vient de dire Jérôme Krill.
Ouais, en fait, je suis d'accord avec Jérôme. C'est absolument vrai, comme Jérôme dit, qu'au démarrage de l'euro, on a pu organiser en détail la convergence qu'on appelle nominale, centrée sur le taux d'inflation, le déficit public, la dette publique, mais on a oublié le besoin d'organiser la convergence réelle. Or, tout à fait par coïncidence, aujourd'hui à Strasbourg, on va voter des rapports très importants qui portent sur la zone euro, et une des innovations majeures de ces rapports, c'est qu'on propose un code de convergence qui porte sur des priorités réelles. Ça veut dire qu'il faut enclencher un processus de convergence entre États membres de la zone euro qui permet de les encourager, les soutenir pour améliorer leur performance en termes d'investissement, productivité, salaire, cohésion sociale, et aussi l'effort fiscal en même temps d'une manière coordonnée. Et ça, c'est à mon avis une très belle proposition que le Parlement envoie.
C'est un vœu pieux du Parlement ou ça va entrer en fonction? Parce qu'après, il faut convaincre la Commission, il faut convaincre la Banque Centrale Européenne, c'est pas si facile que ça.
Oui, bien sûr, ça va être un processus de discussion avec les autres institutions européennes. Mais ce qu'on a en tête maintenant, c'est influencer la feuille de route sur l'avenir de l'Europe que les chefs d'État et premiers ministres vont adopter à Rome le 25 mars, exactement au moment où on va commémorer l'anniversaire du traité de Rome. Et on veut, au Parlement européen, être sûr que cette feuille de route va faire face au problème de la zone euro, qui est au cœur du problème européen, et va porter sur des solutions plus ambitieuses. Ce qui est en cause, c'est pas seulement un code de convergence, c'est ensuite faire en sorte que les États membres pourront converger par leur propre effort, mais aussi comptant sur un soutien européen qui, en fait, c'est une capacité budgétaire qu'on propose dans les rapports qu'on vote cette semaine.
Alors, Marie-Paul Virard, on a bien compris que l'euro n'a pas unifié et fortifié l'économie européenne, mais tout n'est pas perdu. Si on écoute Marie-Joëlle Rodriguez, on dit bon, il y a un problème d'ajustement et voilà, c'est faisable.
Absolument, et de coordination. Si on revient sur ce point de la politique économique européenne, c'est vrai que nous pensons avec Patrick Artus qu'il ne s'agit pas d'harmoniser les politiques économiques, mais il s'agit de mieux coordonner les politiques économiques. Et notamment fiscales, sociales, financières, pour lesquelles chaque décision a une influence sur l'économie des autres pays. Et c'est ça qui n'a pas été accompli. On coordonne un peu dans le désordre telle ou telle politique économique, alors qu'il faudrait avoir une stratégie, effectivement, et des initiatives qui sont très bienvenues de la part de la Commission.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux critères principaux qui sont les déficits publics, il faut qu'ils soient limités à 3%, les fameux 3%, et puis l'inflation qui ne doit pas dépasser 2%, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, et puis il faut qu'il y ait une harmonisation des politiques, par exemple, sur les profits des entreprises, sur la politique fiscale des entreprises, sur les réglementations financières, etc. La divergence, évidemment, ne crée pas de convergence économique et pénalise les pays qui sont les plus fragiles.
Alors c'est le mode d'emploi. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une volonté pour mettre ce mode d'emploi?
C'est toute la question, on peut espérer quand même que les choses vont progresser dans le bon sens. Je voudrais rajouter aussi un point sur ce que vous avez appelé la maladie infantile. Une union monétaire, on l'a créée parce qu'on pense que la disparition du risque de change va favoriser l'allocation de l'épargne dans la zone concernée au mieux. C'est-à-dire l'investissement va se porter aux endroits où il sera le plus efficace, le plus profitable. Et c'est ce qui ne fonctionne pas non plus aujourd'hui dans la zone euro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mobilité des capitaux. L'épargne des Allemands ne s'investit pas au Portugal ou en Grèce ou en Italie sur des projets rentables parce que les Allemands préfèrent investir leur épargne en Chine, en Inde ou dans leur pays.
Ou encore en Allemagne.
Mais donc cette mobilité des capitaux, il faudrait absolument la restaurer si on veut espérer pouvoir améliorer la situation des pays les plus fragiles.
Alors le mode d'emploi, on le connaît, est-ce qu'il y a une volonté politique? On va voir ça dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. 3 minutes, très exactement, avant de retrouver nos invités. À tout de suite.
7 milliards de voisins.
Cruzement toute Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'euro, la monnaie européenne, 25 ans après la signature du traité de Maastricht. Les 12 membres de ce qui allait devenir l'Union européenne ont décidé ce 7 février 1992 de se lancer dans un grand projet, une monnaie unique. 10 ans plus tard, le 1er janvier 2002, nous avions tous des nouvelles pièces et des nouveaux billets dans nos poches, en tout cas pour les citoyens des 12 pays qui ont été les premiers à adhérer à l'euro. La monnaie européenne a permis une maîtrise de l'inflation, une baisse généralisée des taux d'intérêt, mais elle est aujourd'hui critiquée. Il ne se passe pas un jour sans qu'un débat naisse sur la monnaie européenne. L'euro est-il un facteur d'austérité? En tout cas, avec la crise grecque et la superpuissance de l'Allemagne, les disparités nord-sud sont en tout cas devenues problématiques. Quel est l'avenir de cette zone euro à 19 qui constitue une Europe dans l'Europe? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Marie-Paul Virard, elle est journaliste économique et auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre écrit avec Patrice Artus, Euro, par ici la sortie chez Fayard, Jérôme Krill, le directeur du département études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il est co-auteur de l'économie européenne 2017, l'Union européenne après le Brexit, aux éditions de La Découverte. Et Maria-Jo Rodrigues, députée européenne, vice-présidente du Parlement européen, elle est portugaise et elle est membre du groupe des socialistes et démocrates. Elle est en ligne du Parlement européen de Strasbourg. Alors, avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Anna Teruel.
Bonjour Daniel.
Parmi les milliers d'articles que la presse européenne a consacrés à l'euro, celui qui a retenu votre attention, c'est celui du journal économique madrilène Cinco Días, pour qui l'euro symbolise la division entre les économies prospères du nord de l'Europe et celles du sud quelque peu en difficulté.
Tout à fait. En fait, ce qu'ils expliquent dans l'un de leurs articles qu'on a publié récemment, c'est comment dans 15 ans, depuis la mise en circulation de l'euro, on est passé du symbole de l'intégration politique, c'était le rêve de l'euro, à celui justement de la division entre les créanciers, les pays du Nord, et les pays débiteurs, ceux du Sud. Entre-temps, dans ces 15 années, bien sûr, il y a eu la crise financière. Et pour un exemple de ce résultat, c'est qu'entre 2008 et 2014, le PIB du cœur de la zone euro s'est envolé. L'Allemagne a une croissance cumulée de plus de 13%, alors que, par exemple, l'Espagne, elle a reculé de 5,2%, l'Italie de 1%, et la Grèce s'est carrément effondrée de 26%. Donc, bien sûr, l'auteur pointe qu'il y a eu des réussites de l'euro. Hein. Il y a la maîtrise de l'inflation, la baisse des taux d'intérêt, mais il reste beaucoup de questions en suspens. L'union bancaire est inachevée. On n'a toujours pas de date pour la création d'un trésor public ou d'une assurance de chômage commune. Et une des raisons du manque d'avancée, d'après Cinco Días et d'après son correspondant à Bruxelles, c'est que l'axe Berlin-Paris, qui est essentiel, s'est rompu parce que justement chacune de ces capitales s'est mise à la tête de un de ces groupes de pays, donc Berlin des pays créanciers et Paris des pays débiteurs.
D'un côté les pays prospères et de l'autre côté ceux qui sont un peu en difficulté.
Tout à fait. Et donc, il conclut que c'est l'histoire qui nous dira jusqu'à quel point la débâcle économique est attribuable totalement ou partiellement à l'euro, ou si l'euro est juste un facteur parmi cette grosse crise financière mondiale. Mais en tout cas, pour le futur, il cite un professeur de Harvard et de la London School of Economics, Peter Hall, qui dit que finalement la survie de l'euro se joue au fait que les pays du Sud retrouvent une prospérité.
Merci Anna, Courrier International, les dos, Courrier International.com, le site. Alors, le mot n'a pas été totalement prononcé, mais on l'entend un peu en creux. Est-ce que l'euro provoque de l'austérité, Jérôme Krill?
Je crois qu'il est très important qu'on sépare l'euro, cette monnaie unique que nous partageons à 19 États membres désormais, des politiques qui sont menées en son nom. Il n'y a aucune raison d'imaginer que parce que nous avons une monnaie unique, nous devons mener des politiques d'austérité budgétaire. Il y a une zone monétaire plus ou moins optimale qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui n'a pas du tout et jamais mené les politiques d'austérité que nous nous sommes imposées. Donc il est possible d'avoir une monnaie. La France avait une monnaie unique avant l'euro. On ne menait pas des politiques d'austérité en son nom.
C'est donc un petit peu comme, si, pour que les auditeurs comprennent, pendant très longtemps on a dit que la constitution de la 5e République, elle était faite pour le général de Gaulle et que aucun président de gauche ne pourrait être élu. Finalement, l'histoire prouve que non. C'est un peu la même idée, la même histoire.
On était dans une démocratie et le peuple a décidé de...
Et pour l'euro, c'est la même chose. L'euro n'implique pas une forme de politique économique.
Non, mais alors, cependant, un certain nombre de règlements ont été établis qui limitent les possibilités de mener ces politiques économiques moins austéritaires. Mais est-ce qu'on peut les changer ? Ça devient difficile. Est-ce qu'elles nous donnent des marges de manœuvre ? Certainement. Il est très certainement possible, si on en a la volonté politique, de se donner des marges de manœuvre, par exemple, pour lancer un projet d'investissement public comme le plan Juncker. Le plan Juncker est un exemple de politique coordonnée à l'échelle de la zone euro et de l'Union européenne pour essayer de relancer par la voie budgétaire les économies européennes en investissant là où ça va être productif.
Mais le plan Juncker, entre parenthèses, il est un peu modeste par rapport...
Eh bien, il est modeste, mais rien n'empêcherait de le rendre moins modeste. Mais il faut qu'il y ait préalablement un accord politique. Donc l'euro n'est pas synonyme de politique d'austérité. Avoir un euro plus performant pour l'ensemble des citoyens, ceux des pays créanciers comme ceux des pays débiteurs, réclament que nous menions des politiques différenciées d'un État à un autre. Et je crois que Maria João avait tout à fait raison de rappeler tout le travail qui est réalisé par le Parlement européen et la Commission européenne pour adapter les processus de convergence, non plus aux termes nominaux, mais aux termes réels. Ça fait depuis 2011 que ces dispositions existent. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'instruments pour contraindre un État comme l'Allemagne à réduire ses excédents commerciaux. Parce que l'Allemagne a trop d'excédents commerciaux, là où certains pays ont trop de déficits commerciaux. Mais ceux qui ont eu beaucoup trop de déficits commerciaux, on leur a imposé l'austérité. Comme il y a eu de l'austérité, il y a eu beaucoup moins de croissance, comme votre collègue de Courrier International le disait. Comme il y a eu moins de croissance, il y a eu moins d'importations. Donc il y a moins de déficit. Mais c'est pas un bon signe, c'est moins de déficit, parce que derrière cela, il y a la baisse de croissance en Espagne, la baisse de croissance en Grèce. Ce qu'il nous faudrait, c'est un peu plus de croissance en Allemagne.
Alors, avant de redonner la parole à Marie-Jean Grèce, je voudrais entendre Marie-Paul Vira. Il y a effectivement un dogme autour de l'euro, notamment dans le porte-parole et le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, avec cette rigueur sur cette volonté que les déficits publics ne dépassent pas 3%.
Absolument.
Ça, c'est ce qui est écrit dans la règle, mais on sent bien déjà qu'on s'en éloigne. La semaine dernière, nous avons reçu Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie et à la finance.
D'ailleurs, l'année dernière, on n'a pas sanctionné.
Et puis voilà, on n'a pas sanctionné, et il a laissé entendre au micro de RFI, de Carrefour de l'Europe, que bon, on allait un peu dans ce sens-là, on lève le pied.
Oui, alors il faut redire un tout petit mot de l'histoire, c'est que Maastricht, ça s'est fait quand même en pleine vague de dogmatisme néolibéral, où effectivement, la consolidation budgétaire, qui est la formule qu'on utilise pour dire, en fait, les politiques d'austérité qu'on impose au pays, étaient à la mode. Et on a vu ces dernières années que même le FMI, qui était quand même le temple du dogme néolibéral, est revenu complètement sur ses positions en publiant des études qui montraient que cette austérité était absolument mortifère pour les économies des pays de la périphérie de la zone euro. Donc, effectivement, il y a cet assouplissement aujourd'hui où on commence à regarder autrement et on commence même au niveau du FMI à dire les politiques d'austérité, oui, mais il faut les doser, il faut qu'elles soient modulées, il faut qu'elles soient prudentes, etc. Mais j'avais noté un chiffre quand même, entre 2010 et 2015, en 5 ans, la consolidation budgétaire, ça représentait environ 5% du PIB de la zone euro, c'est-à-dire 400 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a imposé aux pays de la périphérie, aux pays du sud, entre guillemets...
C'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce...
La Grèce et le Portugal. De faire un effort qui a été vraiment tragique pour le pouvoir d'achat des plus faibles et de la classe moyenne de ces pays.
Alors, Marie-Chouin-André, vous allez nous dire si l'euro est responsable de l'austérité qu'a connue le Portugal et que le pays connaît un peu, même si le pays est en train de retrouver une croissance qui n'est pas encore flamboyante, mais enfin tout de même on n'est plus du tout dans la récession.
Il y a un déséquilibre de fond dans l'architecture de l'union économique et monétaire qui provoque la situation que l'on a dans les pays au sud. Et la raison d'être de ce problème est très claire à mon avis. C'est que l'architecture de l'Union économique et monétaire a été dessinée pour correspondre aux besoins d'un pays qui reste central, l'Allemagne, et dont le modèle de croissance est porté surtout par les exportations. Alors, dans un cas comme celui-là, l'intérêt de ce pays, en ce cas l'Allemagne, est de ce qu'on appelle la stabilité, ça veut dire un taux de change qui fixe, soit favorable à l'exportation. Ça demande aussi des taux d'inflation basses, et cela est connecté aussi avec ce qu'on appelle des finances publiques très disciplinées. Ça sont les priorités pour un pays comme l'Allemagne.
C'est-à-dire un pays très industriel et qui exporte beaucoup, ce qui n'est évidemment pas le cas du Portugal, qui n'est pas un pays spécialement industriel.
Et du Portugal et beaucoup d'autres pays, parce que c'est aussi vrai que les pays européens doivent tirer parti de son marché intérieur. Donc c'est vrai qu'il faut être compétitif et augmenter les exportations, mais l'Europe a déjà un surplus énorme sur l'économie monde, et donc c'est aussi vrai qu'il faut tirer parti de la demande interne en Europe et de faire le biais du marché intérieur qui est très vaste. Et pour cela, il faut changer ce qu'on appelle le policy mix, les priorités économiques, mettre plus d'accent sur la croissance vers la transition énergétique intelligente. Ça demande de gros investissements en Europe, et pas seulement par les pays qui en ont la marge de manœuvre. Non, il faut investir partout. Et c'est là qu'on remarque que le cercle vertueux de la zone euro ne marche plus. Parce que, comme Marie-Paul disait, je suis d'accord, ce qu'il faut organiser, c'est le recyclage des épargnes qui sont disponibles, il y a beaucoup d'épargnes disponibles, vers des projets d'investissement de qualité, alors, ils sont nécessaires.
Marie-Jean Rodriguez, je sais que vous devez nous quitter dans une minute ou deux. Néanmoins, quelle est la situation du Portugal? Le Portugal n'envisage pas, ou envisage-t-il, de quitter un jour l'euro? Est-ce qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés et les contradictions que vous avez expliquées et développées, l'euro est quand même une chance ou pas pour l'économie portugaise?
Le Portugal reste décidé à rester dans la zone euro. Mais il se bat maintenant pour changer cette architecture. D'ailleurs, on vient d'organiser à Lisbonne un grand sommet des pays du Sud, et la France était aussi là représentée, pour demander que cette architecture soit corrigée, déjà au sommet de Rome en mars 25. Parce qu'il faut doter la zone euro d'une union bancaire qui marche et qui permette ce recyclage des épargnes vers l'investissement. Il faut doter la zone euro d'une vraie coordination de politique économique et regarder la zone euro comme un tout, comme une économie puissante qu'il faut soutenir dans sa demande interne et pas seulement l'exportation. Et il faut aussi compléter l'architecture avec une capacité budgétaire de la zone euro qui devrait être là pour soutenir cette convergence et pour permettre à un État membre de la zone euro de répondre à des chocs s'ils viennent. Il faut bien souligner que toutes les zones monétaires dans le monde ont ce type de capacité budgétaire. Et c'est clair que notre zone monétaire ne peut pas avoir un grand avenir si elle ne se dote pas de ces instruments qui manquent. Mais je répète, le Parlement européen vient d'adopter des rapports très précis là-dessus. On va porter cela sur la table du Conseil européen. L'Allemagne hésite, il faut dire que l'Allemagne de Mme Merkel hésite pour le moment à regarder ce problème avec l'argument que ça divise par rapport aux pays qui n'appartiennent pas à la zone euro. Mais je pense que c'est une grande erreur parce que ces pays seront aussi un jour membres de la zone euro. Donc c'est de leur intérêt d'avoir une zone euro qui marche mieux.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Marie-Paul Vira et Jérôme Krill. Marie-Paul Vira a écrit Euro, par ici la sortie chez Fayard. Et Jérôme Krill a longuement participé à l'économie européenne 2017, lieu après le Brexit, aux éditions de La Découverte. Ce que vient de nous expliquer Maria João Rodrigues, c'était que en gros, les Allemands étaient concentrés sur la nécessité de limiter l'inflation et les déficits budgétaires, alors que pour les pays du Sud, il serait plus judicieux d'avoir une politique économique qui s'appuie sur une politique monétaire qui soit favorable, par exemple, à la lutte contre le chômage, par exemple, Jérôme Krill. C'est un peu ce qu'elle a expliqué.
Absolument, mais la raison fondamentale en est que l'Allemagne n'a pas de chômage. Donc l'Allemagne n'a pas de raison intrinsèque à vouloir lutter contre le chômage qu'elle n'a pas. Cette économie a atteint le plein emploi. La difficulté que rencontrent les Européens, c'est celle d'arriver à convaincre les Allemands que les politiques qui marchent pour l'Allemagne ne marcheront pas forcément pour les autres pays, et que si elles marchaient pour les autres pays et si on faisait de l'Espagne un grand exportateur net, ce serait aussi en partie au détriment des Allemands et des citoyens allemands. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre, et faire aussi comprendre que comme les conditions économiques ne sont pas les mêmes, c'est certainement pas en Allemagne qu'on a besoin d'un plan de relance, par exemple, parce que cette économie, elle est au plein emploi. On va pas leur demander de faire un plan de relance pour avoir plus d'inflation. On voudrait que ceux qui n'ont pas de croissance et pas beaucoup d'inflation, puissent faire un plan de relance. Mais il faut mutualiser les risques qu'induirait l'augmentation des dettes portugaises, espagnoles ou françaises. Et c'est là que le bât blesse, mais simplement pour une raison d'absence de volonté politique. Il est indéniable qu'on n'arrivera pas à avoir une fédération au niveau de l'Union européenne ou de la zone euro. Parce que, a priori, personne n'en veut. Nous sommes encore une famille d'États souverains qui déléguons certaines prérogatives à l'un ou à l'autre dans tel ou tel domaine. Mais je crois que ce qu'il nous faut, c'est avoir constater une bonne fois pour toutes que, à situations différentes, il faut des politiques différentes, donc il faut de la souplesse. Alors il nous faut nous assurer contre le risque bancaire, on est en train de créer une union bancaire. Il faut nous assurer, comme le disait Marie-Paul tout à l'heure, qu'il y ait une meilleure allocation de l'épargne dans l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne.
Mais ça ne se décrète pas.
Mais il y a une union des marchés de capitaux qui est en train de voir le jour pour essayer de favoriser cette situation. On veut lutter contre les divergences réelles, on a des mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Europe n'est pas du tout inerte. L'Europe travaille énormément. L'Europe a certainement pris de plein fouet la crise financière internationale. Mais à ce moment-là, elle venait pas d'Europe, la crise. Elle vient des États-Unis d'Amérique. Elle vient d'un système de capitalisme financier débridé qui a certainement mis à mal l'économie américaine et l'économie monde. L'Europe nous a protégés à ce moment-là. Moi, je tiens à rappeler que quand on est en 2009 et que l'ensemble du monde subit une récession, l'OCDE, à l'époque, dit, voilà, il y a une économie qui s'en tire bien parce qu'elle a un bon système fiscalo-social et qu'elle est membre de la zone euro. Cette économie, c'est celle de la France. Donc, juste après la crise, parce qu'on a été flexible et qu'on a décidé de lutter férocement contre cette crise, on a réussi à en limiter les coûts. Mais juste après, nous avons les Allemands qui nous ont dit, il faut faire de l'austérité parce qu'il y a des traités, parce que le ministre des Finances allemand est un juriste, qu'il est entouré de juristes, et qu'un juriste il respecte le droit, ce qui est tout à fait normal, mais il n'est pas assez entouré d'économistes, il n'est pas assez entouré de financiers, qui lui donneraient sans doute un peu plus de flexibilité dans la façon de procéder pour que l'Allemagne s'en sorte, parce qu'il est important que l'Allemagne se sorte de la crise, c'est son intérêt propre, mais qu'elle s'en sorte avec tous les autres. Là, aujourd'hui, on est dans une opposition permanente, et comme vous le disiez, les Français sont leaders des pays du Sud, les Allemands leaders du pays du Nord, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'Europe que d'avoir 2 euros.
Alors, en attendant, l'ajustement, puisque la dévaluation n'est pas possible, les Portugais ne peuvent pas dévaluer l'euro du Portugal face aux Allemands qui réévalueraient l'euro de l'Allemagne, ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'ajustement, ça s'est fait selon une dévaluation dite interne qui a été les coûts salariaux.
Absolument.
C'est ce qu'on reproche, c'est une des conséquences
de l'union monétaire. C'est quand on ne peut plus faire l'ajustement, quand un pays est en sous-compétitivité et qu'il ne peut plus s'ajuster grâce à sa monnaie, en dévaluant sa monnaie, évidemment, son arme, c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne, c'est-à-dire qu'il baisse ses coûts salariaux pour ramener les prix industriels, les prix des services à un niveau plus compétitif. Mais ça, c'est un enchaînement très très vicieux, dans la mesure où à partir du moment où c'est une sorte de course à la compétitivité par la baisse des coûts et des prix, et donc par la baisse aussi des pouvoirs d'achat des populations locales.
Jérôme Krill, on a compris que la convergence n'allait pas de soi, mais que il se passait des choses qui sont un peu techniques, un peu difficiles à expliquer, ce que vous avez un peu évoqué il y a quelques minutes. Alors cette divergence, on a bien compris qu'elle était dangereuse pour la zone euro, est-ce qu'elle est mortelle?
Je J'espère bien que non. Je crois que l'euro nous a permis d'améliorer nos relations commerciales et financières, qu'il nous a certainement aidé à ne pas subir aussi fortement que d'autres économies la crise financière internationale, et qu'il suffirait d'adapter un tout petit peu nos politiques économiques pour le rendre plus optimal. Je crois qu'il y a, une institution que nous n'avons pas évoquée jusque-là, qui est quand même cette institution qui crée l'euro pour nous, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui fait un travail difficile, qui fait un travail très critiqué ou par certains et qui est considéré comme formidable par d'autres. C'est elle qui tient la baraque. Il y a une seule institution fédérale en Europe qui est au-dessus de tous les États, au-dessus de tous les gouvernements, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle a certainement des défauts, mais elle a aussi des avantages. Et jusqu'à présent, elle a évité que la crise financière soit plus profonde qu'elle n'aurait pu être. On dit toujours, la Banque Centrale Européenne a baissé les taux d'intérêt, fait ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle crée beaucoup, beaucoup de liquidités. Elle rachète de la dette.
Sans trop le dire.
Et on ne voit pas de croissance. Alors on se dit, ça ne marche pas. Sauf qu'on ne sait pas si, sans elle, la croissance aurait été plus forte ou moins forte. Et il se trouve qu'à l'OFCE, avec des collègues, on a fait un petit exercice contrefactuel dans lequel on montre que sans les politiques que cette Banque Centrale Européenne a menées depuis 2007, l'investissement dans l'ensemble de la zone euro serait bien moindre qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est insuffisant, mais il aurait été moindre sans elle. Je crois qu'on a un euro qui est géré par une banque centrale qui fait un énorme travail et qui est supposé tous nous protéger.
Et là, on peut dire un petit mot sur la personnalité de Mario Draghi, qui est à la tête de cette Banque Centrale Européenne, dont on salue quand même les qualités généralement.
Oui, alors j'imagine que Marie-Paul souhaitera parler des risques financiers que peut faire peser cette politique économique. Mais moi, ce que j'ai envie de dire avant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'une politique monétaire expansionniste, c'est la bonne façon d'agir, beaucoup de liquidités, et je ne suis pas certain que lorsque la croissance sera repartie et l'inflation sera effectivement repartie, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait repartie, je ne pense pas que Mario Draghi sera vent debout pour continuer une politique qui irait dans la mauvaise direction, et j'ai envie de lui faire confiance. En me disant que
vous avez envie d'être optimiste.
Je crois qu'on peut être optimiste pour l'euro.
Marie-Paul Bira.
Je ne dirais pas le contraire, mais j'essaierai de nuancer ou de compléter un peu votre propos en disant que, effectivement, en même temps, la Banque Centrale Européenne ne pourra pas inonder le marché de monnaie éternellement pour soutenir l'économie européenne et que, effectivement, les économies européennes, elles doivent aussi se donner les moyens d'avoir un sentier de croissance potentiel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur le long terme, sans inflation, plus soutenu que celui d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut faire des réformes structurelles qui passent par la formation, par l'éducation, par effectivement l'investissement dans les nouvelles technologies, etc. Et là, on revient à l'esprit de solidarité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire non pas l'Allemagne, qui a plutôt une culture sur les règles, on pourrait dire, mais la France, ce qu'on essaye, nous, en France, de promouvoir comme philosophie, c'est-à-dire une philosophie de la solidarité européenne. Et ça, c'est la mutualisation d'un certain nombre de moyens, de l'épargne, on le disait tout à l'heure, un budget européen plus important, etc., qui doit permettre, grâce à la solidarité, de réformer les structures de l'économie d'une façon plus productive.
Alors, on est en Europe un peu partout, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, dans une période électorale, et il y a des candidats qui disent, si on veut vivre plus heureux, mieux, et encore plus longtemps, il faut sortir de l'euro. Est-ce que c'est une option qui vous paraît sérieuse, Jérôme Krien?
Alors, moi, je vais me faire très allemand dans ma réponse. En l'état actuel des traités, il n'est pas possible pour un État membre de la zone euro de quitter la zone euro sans quitter l'Union européenne. Donc je ne sais pas si les candidats qui promeuvent l'idée de quitter la zone euro ont bien compris qu'ils quitteraient aussi l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble des traités qui nous lient les uns avec les autres, qui sont des traités commerciaux, financiers.
Qui serait un super Brexit, parce qu'il faut rappeler que le Brexit, les Britanniques quittent l'Union européenne, mais ne quittent pas l'euro, ils n'en sont pas membres.
Non, mais et donc vous voyez, ce serait un super Frexit si ça devait avoir lieu. Et voilà, je pense que c'est un saut dans un immense inconnu, et c'est le risque d'un retour en arrière qui serait considérable, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que l'Union européenne a totalement failli. Ce n'est certainement pas un succès parfait, mais elle n'a pas totalement failli. Et je crois que la zone euro n'a pas totalement failli non plus. Donc jeter tout ça une bonne fois pour toutes, je pense que c'est un risque qu'il ne faudrait pas prendre.
Alors Marie-Paul Viral, dans votre livre « L'euro par ici, la sortie », point d'interrogation.
Point d'interrogation,
tout de même. Il faut quand même toujours le signaler. Vous avez un petit chapitre qui s'écrit ainsi. « Quitter l'euro, c'est s'appauvrir irrésistiblement ».
Oui, parce que pour toutes les raisons que vous venez de dire, c'est évident que quitter l'euro, c'est... Aucun dirigeant responsable aujourd'hui ne peut prendre une telle responsabilité. On ferait défaut sur nos dettes. Il faut rappeler que les dettes publiques et privées, par exemple d'un pays comme la France, ça représente à peu près 3 fois le PIB, c'est-à-dire environ 7 600 milliards d'euros, dont un peu plus de 2 000 de dettes publiques.
Et cette PIB, dette, le produit intérieur brut,
la création de richesse en France, et cette dette elle est détenue en majorité par ce qu'on appelle des non-résidents, c'est-à-dire des prêteurs, des investisseurs étrangers qui nous ont prêté de l'argent en euros et qui ne sont pas du tout prêts à accepter d'être remboursés en francs demain, c'est-à-dire
en nouveau francs.
En même temps très dévalorisé, on peut l'imaginer. Bon, les experts disent en général 30%, enfin on ne sait pas exactement, mais en tout cas une dévalorisation très très significative qui ruinerait complètement les prêteurs.
Et l'État et les citoyens, Jérôme Krill.
Absolument, parce que notre dette s'en trouverait amoindrie, certainement, mais notre crédibilité internationale aussi. Comme on serait ruiné, on serait obligé de recourir à l'épargne des Français, mais l'épargne des Français, ils préféraient peut-être consommer qu'épargner. Donc on serait dans une situation de défaut assez important sur nos dettes, et puis mettant en difficulté nos entreprises non financières et financières. Enfin, nous avons des grands groupes multinationaux. Donc ces grands groupes multinationaux ont besoin d'avoir une crédibilité sur leur signature lorsqu'ils empruntent. Et l'euro la leur fournit.
Alors je vais m'accorder le mot de la fin, habituellement je le donne toujours à un des invités, de la nécessité de faire avec l'euro en essayant de réparer les erreurs de jeunesse du projet. C'est un peu ça la philosophie de l'euro de demain. Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord avec vous.
On reste donc sur ce petit mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier avec les équipes audiovisuelles du Parlement européen à Strasbourg, avec bien sûr la complicité de Pauline Simon. Vous pouvez réécouter cette émission sur la page Carrefour de l'Europe RFI via RFI.fr ou sur vos smartphones et tablettes. On reste en contact, bien sûr, avec les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, dans la zone euro ou en dehors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.